BW. Vue d'Allemagne.
Les chiffres sont alarmants. Tous les deux jours, une femme est tuée par son partenaire ou ex-partenaire en Allemagne et la tendance est à la hausse. Cette phrase est la première d'une lettre ouverte adressée au gouvernement allemand. La société civile presse les élus d'agir. On voit pourquoi en détail dans quelques instants. Et puis qui l'aurait cru, le Mexique, premier partenaire commercial des États-Unis. Le pays profite des relocalisations post-Covid-19 et des tensions de Washington avec la Chine. On sera sur place en seconde partie de ce magazine. Vue d'Allemagne, vous avez le programme. Los geht's, c'est parti. C'est une lettre signée par diverses associations et déjà plus de 35 000 personnes depuis début octobre qui sonnent, ou ressonnent devrait-on dire, l'alerte. Lettre au gouvernement fédéral allemand l'appelant à agir contre les féminicides. Ces crimes commis par des hommes contre leurs partenaires ou ex-partenaires. Il y en a eu 155 en 2023 en Allemagne, une femme tuée tous les deux jours. Cette violence se produit partout dans notre voisinage, notre cercle d'amis, nos familles alertent les signataires de cette lettre qui ajoute « et la tendance est à la hausse ». 133 femmes tuées en 2022, 155 en 2023.
DW.
Cette hausse des meurtres et assassinats, ce sont les dénominations exactes du code pénal en Allemagne, car on ne parle pas de féminicide en droit, se remarque dans les chiffres donc. Il y a les personnes tuées et celles qui, même si elles restent en vie, sont victimes de violences aussi. En 2023, plus de 250 000 cas de violences domestiques ont été enregistrés. Et il est important d'insister sur ce mot « enregistré » car il existe aussi des milliers de faits non recensés en Allemagne. Cela concerne des femmes et des hommes, mais dans 7 cas sur 10, ce sont des femmes qui sont victimes. Une hausse de plus de 6% que la police a notamment constaté l'an dernier, comme à Koblenz où Gabrielle Sablening est en charge des affaires de violences domestiques.
De plus en plus de femmes arrivaient en disant « j'ai besoin de protection, je ne peux plus rentrer chez moi, je suis battue, menacée de mort ». Ce sont souvent des hommes qui sont extrêmement agressifs, impulsifs, qui veulent tout contrôler, dominer, sont jaloux.
Alors, face à cela, pourquoi cet appel au milieu politique et pourquoi maintenant, que peuvent faire les élus ? Vous aviez annoncé dans l'accord de coalition de 2021 vouloir créer une loi qui protège mieux les personnes concernées contre la violence, donc, disent les auteurs de la lettre, qui annoncent que le temps presse maintenant, alors que les prochaines élections sont prévues pour l'an prochain en Allemagne. Aujourd'hui, il existe déjà des structures pour venir en aide aux femmes. Des maisons d'urgence, par exemple, refuges pour les victimes de violences. Mais les financements de celles-ci dépendent soit de dons, soit de financements publics, qui doivent donc être renouvelés chaque année et pourraient ne plus l'être en fonction de l'état des finances publiques ou des choix des élus en place à l'avenir. C'est ce qu'explique et regrette Alexandra Neisius, qui gère une de ces maisons des femmes à Koblenz, dans l'ouest de l'Allemagne.
Nous avons besoin de plus de places dans les foyers d'accueil pour femmes. Ils doivent être mieux financés, il faut une sécurité juridique. Nous sommes toujours un projet. Ça veut dire que chaque année, nous soumettons une demande de subvention pour le projet Hollande. Alors personne ne fermera les foyers d'accueil pour femmes demain. Mais en principe, selon le gouvernement en place ou les économies nécessaires sur le plan politique, on pourrait dire du jour au lendemain qu'il n'y aura plus d'argent l'année prochaine. Et juridiquement, on ne pourrait alors rien faire. En plus, chaque land a des règles différentes, chaque commune aussi, ce qui rend les choses très difficiles.
Dans certaines structures, les femmes non éligibles à certaines aides sociales doivent même payer leur place si elles veulent fuir le domicile familial. Là aussi, les signataires de la lettre ouverte appellent le gouvernement fédéral à agir.
Sehr schwierig ist, dass die Frauen keinen Rechtsanspruch auf den Platz haben.
Ce qui est très difficile, c'est que les femmes n'ont pas de droit légal à une place. Il n'y a pas assez de places, ce n'est pas une obligation de l'État d'en assurer une. Il faut donc qu'il y ait cette obligation. Et ce qui serait très important aussi, c'est que le séjour dans une maison d'accueil pour femmes soit gratuit.
Il manquerait 14 000 places d'accueil pour les femmes en Allemagne. Une étude sur le sujet arrive à la conclusion que quelques 300 millions d'euros par an sont investis dans la protection et la prévention contre les violences. Il faudrait 4 fois plus pour couvrir les besoins, 1,6 milliard.
DW.
Alors comment réagit le monde politique à cette lettre et cette demande ? Ce n'est pas le sujet de préoccupation numéro 1, disons-le clairement. Même si les mots, comme ceux de la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, sont clairs, elle s'exprimait ici il y a quelques semaines.
Si des femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes, nous devons qualifier ces actes pour ce qu'ils sont, à savoir des féminicides. En tant que société, nous devons dire très très clairement que nous regardons, que nous intervenons et que nous n'acceptons en aucun cas la violence.
La ministre de la Famille, elle, réclame un paquet de mesures, un grand plan et des investissements pour lutter contre ce phénomène et venir en aide aux victimes. Mais alors que les partis de la coalition au pouvoir s'écharpent, aucune grande annonce n'a été faite jusqu'à présent. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes en Allemagne et partout dans le monde. L'occasion, peut-être pour le gouvernement allemand, de faire une annonce.
Vous écoutez la DW.
Et c'est Vue d'Allemagne, seconde partie de ce magazine, grand reportage direction le Mexique, pays dont on entend parler souvent en ce moment dans la bouche du candidat républicain à la présidentielle américaine, un certain Donald Trump. Jamais avare de critiques pour évoquer l'immigration illégale, notamment. Ce qu'on sait moins, c'est l'importance du Mexique dans l'économie américaine. Car depuis la pandémie de Covid-19, le pays est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis. Il a devancé la Chine en termes d'export. Les relocalisations de l'Asie sur le continent américain se multiplient et le Mexique en profite donc. Mais pour combien de temps ? Décryptage et reportage de notre correspondant sur place, Julien Delacour.
Ce que tu vois au fond, c'est les 5000 m² supplémentaires derrière les bâches noires. Donc là, je vais avoir 70% de surface en plus. Ça veut dire que dans les 3 ans qui viennent, on va quasiment doubler la quantité de personnel pour attaquer des nouveaux business.
Des nouveaux business, mais toujours dans le domaine des pièces automobiles. Sur ce site, l'entreprise française au capital désormais taïwanais Strait construit 2 millions de turbos de voitures par an. Implantée au Guanajuato, dans le centre du Mexique depuis 2019, cette usine est au cœur d'une stratégie, le nearshoring ou les relocalisations pour produire au plus près des marchés finaux. Xavier Angonnet, le directeur du site, a bien conscience des nouvelles dynamiques du commerce international.
Il n'y a pas un client qui nous appelle, qui ne nous dit pas « je veux ce qu'on appelle le local content ». On veut être USMCA certifié. USMCA certifié, ça veut dire qu'il faut des pièces qui soient fabriquées localement.
USMCA, ASEM ou encore TEMEC, autant d'acronymes que de langues pour ces accords de libre-échange Mexique-États-Unis-Canada. Pour Strait et de nombreuses entreprises qui ont relocalisé leur activité au Mexique, l'objectif est bien de produire au sein de l'espace de libre-échange et de se rapprocher du plus gros marché du monde, les États-Unis, tout en évitant les frais de douane.
Le marché est là, l'activité est là, la croissance est là, il y a du sens à être présent. Le gros avantage du Mexique, ça reste le coût de la main-d'œuvre. De ce qu'est payé un opérateur aujourd'hui, c'est extrêmement compétitif sur le marché nord-américain.
Pour l'heure, Strait emploie 270 personnes sur son site de Guanajuato et l'entreprise doit constamment recruter pour répondre à la demande croissante. Grâce à l'impulsion des relocalisations des chaînes de production, le PIB mexicain pourrait augmenter de 4 à 5% ces 10 prochaines années, selon certaines estimations. Le Mexique est face à une des plus importantes opportunités de développement de ces 20 ou 30 dernières années, confirme Mario López Roldán, directeur du bureau de l'OCDE pour l'Amérique latine. Avec plus de 3000 km de frontières avec les États-Unis et un accès aux océans Atlantique et Pacifique, le pays jouit d'un emplacement idéal pour attirer les relocalisations. Mais ce sont des contextes commerciaux et géopolitiques exceptionnels qui ont redistribué des cartes pour le Mexique.
Premièrement, il y a ce qui s'est passé avec la pandémie. Les chaînes d'approvisionnement se sont retrouvées interrompues. Et éviter un tel phénomène est compliqué, donc on relocalise. Ensuite, les États-Unis sont entrés dans une sorte de confrontation dans certains secteurs et avec certains pays, dont la Chine. Cela a aussi conduit certaines entreprises à déplacer leurs activités de la Chine au Mexique pour satisfaire le marché états-unien.
estadounidense.
En 2023, le Mexique a d'ailleurs dépassé pour la première fois la Chine en devenant le premier partenaire des États-Unis, avec 130 milliards de dollars de marchandises exportées rien que pour le second trimestre 2024. L'issue de l'élection présidentielle aux États-Unis donnerait une indication sur une intensification ou non du nearshoring. Donald Trump serait probablement plus enclin à continuer la guerre commerciale avec Pékin, ce qui ouvrirait plus d'opportunités pour Mexico. Mais accélération ou ralentissement, l'OCDE avertit le Mexique sur les risques de dérive avec ces dynamiques de relocalisation.
Une des raisons pour lesquelles le Mexique est vu comme un pays attractif, ses salaires compétitifs. À l'OCDE, on s'inquiète d'un alignement sur les salaires bas. Le type de croissance qui est encouragé depuis ces dernières décennies comporte une très grande dimension d'inégalité.
Poussé par le gouvernement et les accords de libre-échange, le salaire minimum est passé de 160 à 448 dollars mensuels ces 6 dernières années. Et pour attirer une main-d'œuvre dont elles ont cruellement besoin avec l'explosion des demandes, les entreprises internationales tentent de se démarquer et doivent dépasser le salaire minimum en plus de proposer des prestations. Mais ce n'est évidemment pas le cas de tous les employeurs et l'augmentation de la production est parfois synonyme de stress et de cadence de travail débridée. Cet employé travaille depuis 30 ans dans une usine du géant américain de l'automobile General Motors au Mexique. Les conditions de travail étant un sujet sensible, il préfère témoigner de façon anonyme.
On ressent plus de pression et on se sent observé. Les dirigeants ne préviennent pas, mais ils augmentent la cadence de la ligne de production de quelques secondes sur chaque poste de travail pour produire plus vite, sans que l'on s'en rende compte. Il y a beaucoup de plaintes, comme quoi ils ne laissent même pas la possibilité d'aller aux toilettes.
La plupart des entreprises étrangères affirment respecter à la lettre un code du travail mexicain qui a beaucoup évolué ces dernières années et vouloir s'implanter de façon durable sur le territoire. Mais pour profiter pleinement de cette manne économique, reste au Mexique à assurer un climat de sécurité dans un pays rongé par la violence et à se pencher sur les énergies renouvelables alors que plus de la moitié de l'électricité produite provient encore des hydrocarbures. Julien Delacour à Mexico pour la Deutsche Welle.
Et si comme nous, cela vous a surpris et vous voulez partager ce reportage autour de vous, c'est possible, soit via l'application DW, soit via Spotify ou Apple Podcast où vous retrouvez tous les numéros de Vue d'Allemagne. Celui de cette semaine se termine et c'est Anne Letouzé qui reprendra le micro pour le prochain, la semaine prochaine. Merci à Andrea Grunau pour ses recherches au sujet des féminicides dont on parlait en première partie. Le lien de la lettre ouverte en allemand est sur la page du podcast aussi. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis bis bald et à très bientôt. Tchuss !